Quel sera l'impact de la démission de Nicolas Hulot? Le ministre de la Transition écologique et solidaire a jeté l'éponge ce matin. Il parle d'une accumulation de déceptions et ne veut pas se contenter de petits pas. L'invité de ce journal est l'eurodéputée écologiste Eva Joly. À l'université d'été du MEDEF, gouvernement et patron sont sur la même ligne. Édouard Philippe promet que son gouvernement œuvrera avec constance pour améliorer la fiscalité des entreprises jusqu'à la fin du quinquennat. Washington met la pression sur le Canada pour qu'il accepte dès cette semaine de se joindre au nouvel accord de libre-échange annoncé par les États-Unis et le Mexique. Décryptage de Pierre-Yves Dugas. Et puis, nous irons en Allemagne où la chancelière Angela Merkel dénonce la haine dans la rue après les incidents survenus à Chemnitz lors de manifestations contre les étrangers. Après bien des états d'âme, Nicolas Hulot a donc décidé ce matin de démissionner. Une décision manifestement douloureuse. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement, assure Nicolas Hulot. Mais sur les sujets que je porte, on n'a pas la même grille de lecture. Dressant le bilan de ses 14 mois passés à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire, il constate trop de renoncements. Est-ce que les petits pas suffisent? Non, répond Nicolas Hulot, qui en a donc tiré les conséquences. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Depuis ce matin, les réactions affluent pour saluer les efforts faits par le ministre pour faire progresser la politique environnementale ou pour partager son constat d'échec.
Oui, après le coup de tonnerre de ce matin et cette annonce surprise, le Premier ministre Édouard Philippe vient de saluer le travail effectué par Nicolas Hulot depuis l'université d'été du MEDEF.
J'ai aimé travailler avec Nicolas Hulot. Je crois que ensemble nous avons réalisé des avancées sur le plan climat, sur la biodiversité, la prise en compte notamment de l'impact d'un certain nombre de produits sur notre environnement et sur nous-mêmes.
Une référence aux pesticides alors que Nicolas Hulot n'a pas obtenu l'interdiction du glyphosate. Ce bilan n'est qu'une succession de petits pas, très loin des gros enjeux selon le futur ex-ministre. Est-ce que nous avons commencé à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à réduire la consommation des pesticides ou bien commencer à enrayer la réduction de la biodiversité? La réponse est non, a martelé Nicolas Hulot ce matin. Accepter le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, et reconnaître que l'objectif de la réduction à 50% de la part de nucléaire dans la production de l'énergie ne sera pas tenue pour 2025, cette fameuse ligne rouge que le désormais ex-ministre avait mise en avant. Pour Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, les couleuvres à avaler se sont transformées en boa constricteur au fil des mois.
Si Emmanuel Macron a toujours cajolé Nicolas Hulot en termes de communication, quand il s'agit d'agir, il cajole le lobby de la chasse, il cajole le lobby des pesticides, il cajole le lobby du nucléaire ou des constructeurs automobiles. Ça ne dit pas que l'écologie au gouvernement est impuissante, ça dit que l'écologie dans ce gouvernement est impuissante.
Nicolas Hulot aura tout de même obtenu l'abandon du chantier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou bien le plan climat, la fin du diesel en 2040, loin de dissuader l'ex-ministre de tirer sa révérence.
Sophie Delpont a noté cette réaction de la présidente de la FNSEA. Christiane Lambert estime que ce sont les ONG qui ont poussé à bout Nicolas Hulot, notamment sur le sujet des pesticides. En lui reprochant de ne pas aller assez vite, les défenseurs de l'environnement l'auraient découragé. Alors revenons un instant sur ce qui a déclenché la décision de Nicolas Hulot. Ce matin sur France Inter, il a confié avoir très mal vécu hier soir la présence à l'Élysée de Thierry Coste, lobbyiste de la chasse traditionnelle, lors d'une réunion sur le projet de réforme de la chasse. Le ministre de la Transition écologique reproche à Thierry Coste de s'être lui-même invité à cette réunion. Il faut savoir que les deux hommes se détestent cordialement depuis plus de 20 ans. Nicolas Hulot avait fait exclure le lobbyiste du Grenelle de l'environnement à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ce soir, en tout cas, Thierry Coste réplique et il accuse Nicolas Hulot de mauvaise foi.
C'est la Fédération nationale des chasseurs qui a été invitée par le président de la République et on a constitué, à la demande de l'Élysée, une délégation. La première fois, le 15 février, le président de la République a demandé qu'elle soit restreinte. Il y avait Willy Schran et son conseiller politique Thierry Coste. Il y a même des photos. Donc vous voyez que je ne suis pas un intrus à l'Élysée sur les sujets chasse. Et Nicolas Hulot, on l'a rencontré dans le salon avant d'aller en réunion. On est resté 10 minutes ensemble, tout s'est bien passé, j'ai rien à cacher, entre guillemets, je comprends qu'il ne m'aime pas, on s'est combattu pendant longtemps, mais il faut juste pas mentir, et je suis un mauvais prétexte, comme les chasseurs et cette réunion sont d'un mauvais prétexte pour son départ. Je pense que nous l'avons soutenu depuis 16 mois, et il partirait à cause de nous, alors que Brigitte Bardot l'a insulté, personnellement et politiquement. Honnêtement, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Nous, on était contents de cette réunion. Il savait que j'étais là, il savait que les chasseurs étaient là et qu'on allait discuter de sujets où les arbitrages n'iraient peut-être pas ni dans notre sens, ni dans le sien. Finalement, le président de la République a fait un arbitrage très équilibré. Il n'y a qu'un sujet qui a fait l'objet d'une discussion plus animée, mais très courtoise, c'est sur les chasses traditionnelles. Mais ce n'est pas nouveau.
Thierry Costa s'est remonté donc au micro d'Anne Fauquemberg. Pour commenter cette actualité, nous sommes en ligne avec Eva Joly, députée européenne écologiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Quand Nicolas Hulot se plaint de la présence de lobbies dans les cercles du pouvoir, j'imagine que vous le rejoignez, Eva Joly.
Mais complètement. Et c'est très symbolique, n'est-ce pas? On voit bien qu'Emmanuel Macron a choisi les lobbyistes plutôt que l'écologie. Et que c'est une provocation à l'égard de Nicolas Hulot que d'avoir Thierry Costa à cette réunion ministérielle. Déjà, la chasse en France est une survivance historique anachronique par rapport à tous les autres pays européens. Nous, nous autorisons la chasse à 60 espèces alors qu'en moyenne, c'est 14. Il y a 1,2 million de chasseurs, donc on voit bien ce qu'il fait Emmanuel Macron. Il veut flatter cet électorat au détriment de la préservation de la biodiversité. C'est un massacre d'oiseaux notamment.
Alors, les chasseurs, c'est une chose. Il y a d'autres lobbies très influents, selon vous?
Oui, on voit aussi que Emmanuel Macron a abandonné définitivement la taxe sur les transactions financières qui, justement, devait financer la transition écologique. Il a limité ce taxe uniquement pour concerner les actions. Il a exclu tout le trading, toutes les transactions si nombreuses qui sont très rapides. Donc tout le trading est exclu, donc il a renoncé. Il s'est aussi donc plié devant la finance toxique. Il renonce au financement pour cette transition écologique.
Alors Eva Joly, Nicolas Hulot n'est pas le premier ministre de l'écologie à démissionner, hein, loin de là. C'est vrai qu'un gouvernement est contraint à l'action avec effet immédiat. Est-ce que c'est ça qui coince avec l'écologie? Est-ce que les effets d'une politique environnementale ne sont pas assez visibles tout de suite?
Je crois surtout qu'il y a un décalage énorme entre l'urgence qui est absolue. Il faut bien se rendre compte que cet été, la température au pôle Nord a dépassé les 0 degrés, qu'il a fait plus de 30 degrés au cercle polaire, qu'il n'y a presque plus de glace à l'Arctique, c'est-à-dire il y a une urgence, ça va détourner le Gulf Stream, ça va modifier complètement les climats. Il y a une urgence absolue dans tous les domaines pour le climat, pour la biodiversité. Et vous voyez par exemple pour les glyphosates. Ne pas être capable de l'interdire dans les 3 ans, comme demandait Nicolas Hulot et son ancien porte-parole, alors que nous n'avons presque plus d'abeilles. Et les conséquences de ça, je veux dire, il n'y a plus que 25% de nos abeilles. Nous savons que c'est les glyphosates. Et être incapable de mettre ça dans la loi, c'est du mépris pour l'environnement et c'est céder au lobby de l'agriculture productiviste. On peut faire autrement, ça se fait autrement, et c'est urgent.
Mais alors Eva Joly, vous soulignez cette urgence, on a vu même en France l'été particulièrement chaud, mais le gouvernement...
Tout le monde peut le voir et le sentir. Ce n'est pas un raisonnement abstrait, n'est-ce pas? C'est les changements climatiques violents, tout le monde les voit.
Sauf que si les attentes des Français étaient si fortes, le gouvernement en tiendrait compte. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie maturité de la société française en matière d'environnement?
Vous savez, la résistance au changement est un constant dans toute matière. Regardez le fait de baisser la vitesse de circulation de 10 km/h, la résistance que ça rencontre, c'est un constant. Et donc parfois, le rôle d'un gouvernement, c'est de mettre un point sur l'horizon et d'y aller. C'est de savoir mieux, c'est aussi d'imposer. C'est d'imposer une agriculture absurde qui nous empoisonne et qui, à terme, est complètement condamnée. C'est d'imposer des mesures aujourd'hui.
Alors, est-ce que aujourd'hui vous diriez que malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, Nicolas Hulot, pendant son court passage au gouvernement, a quand même pu faire avancer la cause de l'écologie?
Je pense qu'il a été un porte-parole très efficace actes de la cause écologique et qu'il a été mis en minorité dans des situations où il n'aurait pas dû l'être et où c'était une provocation de la du gouvernement à son égard. Je pense par exemple sur la montagne d'or en Guyane, sur la suppression de l'aide au maintien de l'agriculture biologique, sur l'appel contre l'annulation du permis de construire pour Europa City dans le triangle de Gonesse. Si vous voulez, toutes les combats écologiques importants et qui étaient possibles, où il était possible de changer son fusil d'épaule, bon, le gouvernement ne l'a pas fait. Et sans parler de la raffinerie Ahmed, pour l'huile de palme. Donc,
merci beaucoup Eva Joly. Voilà. Cet après-midi, Emmanuel Macron en visite d'État au Danemark a réagi depuis Copenhague à la démission de son ministre. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est entre autres un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre. Les décisions de fermeture de centrales à charbon, l'engagement sur l'hydrocarbure, les engagements pris pour préparer une trajectoire énergétique qui sera bientôt traduite. Des vraies décisions en matière de mobilité. Un engagement européen, international, constamment invoqué. Demandez à quiconque si la France est absente du sujet international sur le climat. Et des engagements à venir.
Emmanuel Macron au micro de Quentin Dickinson. Le président a tout de même été pris de court par cette démission. Lui qui s'est montré très volontariste depuis le début de son mandat semble être entré dans une période où il subit plus qu'il ne maîtrise la situation, Stéphane Robert.
Oui, parce que Nicolas Hulot n'a pas prévenu le président de sa décision. Et la question est-il remplaçable ? Poser cette question, c'est presque déjà y répondre par la négative. Non, il n'est pas remplaçable. Pourquoi ? Déjà parce que Nicolas Hulot, malgré une popularité qui s'érodait un peu au fil des mois, restait une des personnalités, si ce n'est la personnalité la plus populaire du gouvernement. Et puis surtout, parce qu'il était l'un des éléments clés de la crédibilité d'Emmanuel Macron. Il avait décliné les offres de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, avant d'accepter de faire partie du gouvernement Macron. Et comme Nicolas Hulot, du fait de sa réticence à s'engager en politique, avait acquis l'image d'un défenseur de l'environnement incorruptible et désintéressé. Cette crédibilité-là avait immanquablement rejailli sur Macron, qui avait réussi à le convaincre. C'est pourquoi le président de la République perd beaucoup avec la démission de son ministre de la Transition écologique. Et aucun remplaçant potentiel ne semble disposer du même charisme. Et puis, on a l'impression que les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Emmanuel Macron depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. En matière d'économie, la situation se dégrade. Le soi-disant grand ami d'Emmanuel Macron, Donald Trump, est complètement incontrôlable. Au niveau européen, les mouvements populistes se renforcent et commencent peu à peu à accéder aux responsabilités en Italie, en Autriche. Les élections en Suède sont en la matière un peu assez inquiétantes d'ici 15 jours. Au niveau national, il y a eu l'affaire Benalla, dont le président n'a pas vraiment su se dépêtrer. Plus récemment, l'affaire Françoise Nyssen. Bref, on a là une escadrille de mauvaises nouvelles comme une nuée de sauterelles qui viendrait dévaster le champ politique du président de la République. Alors comment enrayer la spirale et comment rebondir ? Il faudra sans doute envisager un remaniement de plus grande ampleur que le simple remplacement du ministre de l'écologie pour essayer de remettre un peu de carburant dans le moteur du macronisme qui montre aujourd'hui d'inquiétants signes de fatigue.
Stéphane Robert est le successeur de Nicolas Hulot ne sera pas connu avant plusieurs jours. On ne referme pas tout à fait ce dossier puisque il en sera toujours question dans du grain à moudre. Ministre de l'écologie, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, ça c'est bien un titre à l'air avec Gardette. Édouard Philippe s'est rendu aujourd'hui à Jouy-en-Josas dans les Yvelines où se déroulent les universités d'été du MEDEF et le chef du gouvernement s'y est trouvé comme un poisson dans l'eau. Jean-Marc Chardon, vous êtes sur place. Édouard Philippe et le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, ont affiché leur proximité.
Oui, une grande proximité, c'est manifeste, celle du nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, en bas de chemise, laissant tomber la cravate et Édouard Philippe, allure et style plus conventionnel. Alors l'un qui d'entrée de jeu se pose en défenseur de l'Europe, une Europe pour tous, dit-il, l'autre en promoteur de la France, en faire le pays le plus attractif, le plus compétitif d'Europe. C'est-à-dire que dès le début, vous le voyez, les deux discours s'entrecroisent. Et dans les mots, les expressions, la convergence se vérifie, tous deux parlent sur le même registre de transformation. C'est Route Bézieux qui donne le ton d'ailleurs. En 20 ans, tout a changé. Et c'est lui qui, à travers une intervention, laquelle semble improvisée, en appelle à transformer la France au rythme de la transformation du monde. Il épouse ce faisant le langage d'Emmanuel Macron, Start-up Nation. Les actions de modernité qui voisinent avec d'autres qui le sont moins lorsqu'il fait référence au génie français, à la singularité de la France. Et c'est ainsi qu'il se revendique de l'entreprise patriote. Pour le nouveau patron du MEDEF, la confiance est bien revenue, mais d'ajouter, elle est fragile cette confiance. Voilà bien le seul bémol d'ailleurs, la crainte d'un retour d'une politique en zig et en zag si le gouvernement voulait retoucher les charges sur les entreprises. Mais crainte vite dissipée face à un chef de gouvernement qui voit l'action des représentants de l'entreprise complémentaire tout simplement de la sienne. Complémentarité, c'est le sens de son engagement à investir massivement sur la formation professionnelle afin de permettre aux salariés de revenir sur le marché du travail tout en associant les mêmes salariés à l'entreprise. Là, c'est l'appel à généraliser l'intéressement plutôt que de maximiser les profits. Un appel, semble-t-il, entendu.
Jean-Marc Chardon en direct de Jouy-en-Josas avec Yves Lehors à la technique. Les États-Unis et le Mexique se sont entendus hier sur un nouvel accord de libre-échange destiné à remplacer l'ALENA en vigueur depuis 1994. L'accord est pour l'instant bilatéral, mais il est censé intégrer également le Canada, d'où la pression américaine pour amener Ottawa à valider rapidement ce nouvel accord. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, arrive justement à Washington. Et le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, dit croire à la conclusion dès cette semaine de pourparlers commerciaux avec le Canada. Pierre-Yves Dugas, vous qui suivez de près l'actualité économique américaine, tout ça vous paraît crédible ?
Écoutez, le texte de l'accord bilatéral sera déposé au Congrès vendredi. Il ne reste donc que 3 jours pour que la délégation canadienne se décide. Voilà des mois que celle-ci arguait que le Congrès n'avait pas donné de mandat à l'administration Trump pour négocier un accord bilatéral, mais que le mandat exigeait l'inclusion du Canada. Alors c'était une observation juridiquement exacte. Le problème, c'est que ça n'empêche pas le gouvernement de Justin Trudeau aujourd'hui d'être au pied du mur. En dépit des réticences des élus républicains qui souhaitent absolument que le Canada figure dans le nouvel accord de libre-échange, la Maison-Blanche aujourd'hui se fait fort d'obtenir a posteriori un nouveau mandat de négociation d'accord purement bilatéral. Alors c'est vrai, l'essentiel du nouvel accord doit convenir à Ottawa. Il y a toutefois un point important qui peut poser problème, c'est l'abandon, dans le nouveau texte, du chapitre qui rendait possible la contestation de sanctions commerciales qui étaient prises par un pays contre un autre au nom du dumping. On sait que Washington a beaucoup sanctionné le Canada ces derniers temps pour dumping, notamment sur le bois de construction, la pâte à papier, et les Canadiens maintenant ont peur d'être encore plus vulnérables avec le nouvel accord qui, lui, a déjà été accepté par le Mexique.
Mais accord il y aura, même s'il ne satisfait pas vraiment le Canada.
La marge de manœuvre économique du Canada face aux États-Unis est faible. L'économie canadienne, c'est 12 fois moins que l'économie américaine. Et c'est une économie très dépendante de la demande américaine. Alors c'est vrai, la marge de manœuvre politique de Justin Trudeau est faible aussi. Mais l'industrie canadienne a absolument besoin de continuer de commercer librement avec les États-Unis. L'imposition de droits de douane par Washington sur les automobiles qui sont assemblés au Canada serait catastrophique. Et c'est pourtant la menace qui a été proférée par Donald Trump hier encore. Il faut quand même rappeler que le Canada produit plus de 2 millions de véhicules par an. C'est le 10e producteur automobile mondial. De grands constructeurs comme General Motors, Toyota, Ford et Honda assemblent des milliers de modèles à cheval sur la frontière américaine et canadienne. Leur modèle économique et des millions d'emplois au Canada dépendent du libre-échange et donc du maintien du Canada dans l'ALENA.
Merci pour ces explications, Pierre-Yves Dugas. La tension ne retombe pas en Allemagne. La chancelière Angela Merkel dénonce même la haine dans la rue. Après la mort d'un Allemand samedi à Chemnitz, poignardé suite à une altercation avec des réfugiés, des chasses collectives ont été organisées par des sympathisants d'extrême droite contre des étrangers. Et aujourd'hui, il y avait de nouveaux rassemblements à Dresde. Le reportage de Nathalie Versieux.
Ils sont peu nombreux, une centaine tout au plus, à s'être réunis à partir de 15h au pied du Parlement régional de Dresde, là même où l'AFD doit arriver au pouvoir à l'issue des élections régionales de l'an prochain, selon les vœux de Roland. Ce comptable de 54 ans est présent à toutes les manifestations de l'AFD, excédé par les avantages dont bénéficieraient les réfugiés quand nous n'avons rien. Un Allemand qui travaille doit se contenter de 400 euros par mois pour vivre et eux, c'est leur argent de poche, affirme-t-il, les yeux cachés par des lunettes de soleil. La police patrouille patrouille en bateau sur l'Elbe qui s'étire paisiblement au pied de la superbe coulisse qu'offre la vieille ville à l'autre bout de la place. L'université de Dresde a mobilisé quantité d'étudiants et d'activistes de gauche. À Dresde, où le mouvement anti-Pegida mobilise chaque semaine des centaines de personnes, le groupement de l'extrême droite s'est déroulé pacifiquement.
Nathalie Versieux à Dresde. Temps instable en France. Pour l'instant, 11 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange pour risque d'orage. Il y aura aussi des averses orageuses cette nuit des Pays de la Loire à la frontière belge. Demain matin, des pluies soutenues toucheront les Hauts-de-France et la région parisienne. Et à partir de la mi-journée, c'est sur la façade est que le temps sera agité. Les températures, 12 à 22 degrés le matin, 18 à 30 l'après-midi, jusqu'à 33 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.